moi, je n'attends qu'un seul remaniement, qui est le remaniement du comportement du président de la République.
Ce qui m'a frappé, c'est une impatience, et je pense qu'elle se traduit au niveau de l'abstention dans notre électorat sur les résultats.
Un proverbe cauchois dit que quand vous avez affaire à un malentendant, il faut répéter une deuxième fois et plus fort. C'est exactement ce à quoi on a assisté.
Bon, les choses très clairement, nous avions gagné ces élections municipales en 2001. Là, effectivement, la gauche, hier, a remporté beaucoup plus de villes que nous. Et il faut maintenant surtout savoir comment lire ce résultat.
Comment lire ce résultat des élections d'hier? Comment expliquer le succès de la gauche, la sortie de route de l'UMP et les virevoltages du MoDem? Quelles sont les conséquences de ces résultats pour la majorité? Et surtout, pourquoi mon beau-frère ne s'est pas déplacé? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions et à beaucoup d'autres ce soir dans Politique Addict en recevant, je n'ai pas peur de le dire, l'un des plus grands politologues français, chercheur au CNRS, professeur de communication politique et auteur de « Comment devient-on président de la République ?» Thierry Vedel est avec nous. Et puis nous continuerons également notre petit tour de France que nous avons entamé la semaine dernière en nous rendant par téléphone dans quelques villes symboles de ces municipales pour interroger de jeunes candidats et militants. Bref, ce soir, comme dirait Jackie et Benji, on fait le bilan calmement, presque comme si on avait 50 ans. Bonsoir Thierry Vedel.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, vous êtes politologue, chargé de recherche CNRS au CVPOF. Juste avant de commencer et de vous présenter toute l'équipe qui est avec nous ce soir, c'est quoi un politologue ?
Un politologue essaie de comprendre comment fonctionnent les systèmes politiques. Et pour donner juste un exemple, puisque ce soir on s'occupe des élections, ouais. Dans le domaine électoral, ce qui nous intéresse, c'est pas ce que votent les gens. Enfin, ça nous intéresse, mais d'abord, on essaie de comprendre pourquoi les gens votent de telle ou telle façon et qui vote quoi.
Alors, j'ai lu que l'un de vos thèmes de recherche concerne les relations entre Internet et le politique. Eh bien, écoutez, vous avez de la chance puisque la jeune fille qui est assise juste à vos côtés tient une chronique dans cette émission qui s'intéresse à la politique sur le web. Bonsoir, Bérangère.
Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Thierry. Bonsoir à tous. Effectivement, dans ma chronique ce soir, je vous montrerai que la campagne e-municipale n'était pas si pertinente que ça sur Internet.
Voilà, petit bilan des municipales sur Internet avec Bérangère tout à l'heure. Thierry Vedel, je disais aussi que vous êtes l'auteur de Comment devient-on président de la République chez Robert Laffont ? Question qui aurait pu tout à fait se retrouver dans le quiz de Carole. Bonsoir Carole, qui est aussi réalisatrice de cette émission.
Bonsoir à tous. Effectivement, je vais réaliser un petit quiz, comme chaque semaine. Moi, mon terrain de jeu, c'est la radio, la télé, la presse, à savoir donc si vous avez tout retenu.
Ouais, alors pardon, parce que la semaine dernière, on t'a squeezé ton quiz. Hein.
Alors, peut-être donc, cette semaine aussi, d'ailleurs.
On va se rattraper cette semaine. Et puis enfin, Thierry Vedel, j'ai lu que vous étiez passionné par la régulation des médias dans un contexte de mondialisation. Eh bien écoutez, ça tombe très bien, puisque c'est le sujet favori de Philippe, juste après Bob l'éponge. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous, bonsoir Thierry Vedel. Cette fois-ci, on ne parlera pas de régulation par les médias, je n'ai pas tout à fait suivi la suite.
Dans un contexte de mondialisation, bien sûr. Bon,
félicitations. Non, on va parler de la veste sous toutes ses coutures.
Très bien, la veste, et oui, thème cher à la droite en ce moment. Et avant de nous rendre par téléphone à Nice, à Strasbourg et à Rennes pour parler avec des acteurs de ces municipales, on va avoir à l'antenne à la fois un UMP, un PS et un représentant du MoDem. Eh bien, on va revenir avec vous sur l'ensemble des résultats d'hier pour essayer de mieux les comprendre. D'abord, c'est toujours la même bataille de mots au soir des élections. Hein. On l'a vu hier, vous avez certainement suivi les plateaux. Le but, c'est de savoir comment qualifier les élections et quel est le mot qui restera. Vous diriez quoi ? C'est un rééquilibrage par rapport à 2001, comme le disait la droite, ou plutôt une sanction du gouvernement, comme le suggérait la gauche ?
Je dirais ni l'un ni l'autre. Moi, je crois que ce qui s'est passé avant tout, c'est que une partie des électeurs de Nicolas Sarkozy n'ont pas été mobilisés durant cette élection. Et donc, Nicolas Sarkozy avait été capable, durant l'élection présidentielle, de rassembler au-delà de son camp. Et visiblement, une partie de ses électeurs ont voté avec les pieds, comme on dit, c'est-à-dire ils ne sont pas allés aux urnes.
Et comment ça peut s'expliquer, ça, le fait que les électeurs n'aient pas saisi peut-être l'enjeu, le fait que ce soit local et pas national ?
Alors, bon, ça c'est tout de suite on touche à une des grosses difficultés des élections municipales, parce que là, ce soir, on va se livrer à cet exercice. D'autres l'ont fait avant nous, d'autres le feront après nous.
Mais beaucoup moins bien.
Voilà, sûrement. Et donc, de donner du sens à une multitude de 36 000 élections qui ont eu lieu en même temps. Hein.
Ouais.
Et c'est ça, moi, qui me frappe. Déjà, on oublie la moitié des petits villages et des petites villes qui, eux, se sont pour l'essentiel déterminés sur des enjeux locaux.
Oui, souvent même sans étiquette.
Voilà, ou même des histoires tout à fait personnelles, parce que parfois familiales, hein, la famille de l'ancien maire a fait un truc, et donc on va voter contre lui pendant des générations.
C'est vrai que ça, c'est un peu dur à interpréter, je suppose, pour un politologue.
Voilà. Sauf que vous l'avez remarqué, hier soir, très volontiers, on rassemblait toutes les voix.
Ouais. Hein, et on dit, les Français ont voulu dire ceci.
Voilà, les Français ont voulu dire ceci, et puis même, la gauche a dit, on est majoritaire dans le pays en rassemblant une multitude de listes. Hein. Donc, ce qu'on voit, c'est clairement que c'est une multitude d'élections qui a eu à la fois des enjeux locaux et nationaux qui se sont constamment emmêlés. Bon, c'est une dialectique très très complexe. Même dans une grande ville comme Paris où les gens votent plutôt en fonction de logique partisane nationale, les enjeux locaux ont pu jouer ici ou là. Par exemple, moi je suis persuadé que dans le 12e, il y a à la fois un reflet de l'évolution sociologique de l'arrondissement dans le résultat très brillant de la liste socialiste, mais aussi une espèce une réaction patriotique, hein, des habitants du 12e qui en ont marre que la droite leur envoie des gens qui savent même pas où est le 12e arrondissement, hein, donc déjà lors des législatives, et à nouveau on recommence pour les municipaux.
Là vous parlez de Jean-Marie Cavada et de la ministre de l'économie aussi, Christine Lagarde, c'est ça?
Tout à fait.
On peut peut-être dire aussi, préciser que dans le 12e, en 20 ans, la population a été renouvelée de 50%, donc il y a eu un gros changement.
Oui, et puis l'un des éléments clés de cette élection, on le disait, c'est la participation qui a été donc très très faible, hein, la plus faible depuis 1959, on dit, puisqu'elle a été seulement de 65%. Est-ce que c'est pas dans ce chiffre, finalement, que se manifeste le plus la vraie déception des gens vis-à-vis de Nicolas Sarkozy après une élection présidentielle où la participation avait été extrêmement haute?
Oui. Alors, tout à fait. Hein, c'est clairement parmi les électeurs de Nicolas Sarkozy qu'on trouve le plus d'abstentionnistes. L'abstention était différentielle suivant la gauche et la droite. Et de façon plus générale, vous citiez des chiffres, il faut savoir qu'à peu près 9 à 10 millions d'électeurs qui avaient voté à l'élection présidentielle n'ont pas voté cette fois-ci.
Ah oui.
C'est considérable. Et en même temps, bon, on peut dire que les élections municipales, ça passionne pas, ça fascine pas, ça mobilise beaucoup moins que d'autres élections. Mais moi, je trouve toujours miraculeux qu'il y ait autant de gens qui se déplacent pour voter. Parce que si on était parfaitement rationnel, c'est-à-dire à son simple niveau individuel, mon vote à moi ou le vote à vous,
il
sert à rien.
Une goutte d'eau, quoi.
Donc pourquoi se fatiguer, se lever le dimanche au lieu de faire la grasse mat, des trucs comme ça? Parce que malgré tout, on trouve au moins la moitié des Français qui ont un sens civique, qui prennent très sérieusement le fait de voter. Et d'ailleurs, quand on va dans les bureaux de vote, on est toujours frappé par le sérieux, la solennité des opérations.
C'est quelque chose de très français, ça, hein.
La solennité des opérations, oui.
Ouais.
Moi, j'étais en 2005 en Grande-Bretagne. Un bureau de vote, ça ressemble presque à un bureau de poste. Enfin, comme avant, parce que maintenant... C'est...
Justement, il y a aussi des machines à voter. Est-ce que vous trouvez que ça enlève de la solennité?
En fait, la solennité, elle est d'abord dans le fait qu'on vote en France presque uniquement dans des écoles, alors que
le préau de l'enfance qu'on traverse.
Voilà,
mais c'est
quand même un lieu fondateur de la République. Hein. Donc ça, on emporte tous la marque, alors qu'en Grande-Bretagne, ça peut être n'importe où, dans un hall de mairie, ça peut être une église, puisque les églises offrent des salles.
C'est encore plus solennel. Dans ce
voilà. non, parce que c'est l'annexe ou le voilà. Et l'autre chose, c'est la présidence du bureau de vote, la célèbre formule à voter, qui l'isoloir aussi. Il y a des pays où il y a quasiment pas d'isoloir, mais volontairement les gens passent pas parce que ils ont préparé leur bulletin de vote auparavant.
Si on revient à un sujet qui vous intéresse particulièrement, la communication politique, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu une erreur un peu de la part de la droite dans ces élections de vouloir en permanence minimiser sa défaite, à la fois après le premier tour, mais également aujourd'hui après le second tour?
Alors, je vais peut-être vous étonner. Je m'intéresse énormément à la communication politique et en même temps, je crois que ça... très peu d'importance. En fait.
C'est bien pour un en professeur politique. De communication politique à Sciences Po, c'est bien.
Bon, parce que je crois que toujours dans les élections, ceux qui priment, ce sont d'abord des logiques sociales fortes, lourdes. Par exemple, on parlait à l'instant avec Bérangère du 12e arrondissement, et Bérangère nous rappelait que la moitié de la population a changé. Bah, ce qu'on voit bien dans les municipales, c'est en effet aussi les reflets des évolutions sociologiques fortes, notamment en milieu urbain. On voit l'apparition de centres-villes qui sont occupés de plus en plus par des classes moyennes supérieures, aisées, des professions libérales, intellectuelles, alors que les classes populaires disparaissent. Mmh. Alors, le gros paradoxe, d'ailleurs, c'est
qu'ils
votent
à gauche.
Voilà, absolument. C'est que les bobos votent plus à gauche et que... Pour une part, les classes moyennes inférieures et une partie des classes populaires a tendance plutôt à se reconnaître dans Nicolas Sarkozy.
Le vote Colomb, pour vous, c'est un vote bobo ?
Un petit peu aussi, oui. Ouais. Je crois, non, mais c'est une tendance dans toutes les grandes villes qui se sont modernisées, qui se sont transformées, et peut-être Bordeaux un petit peu moins.
Oui. Alors, on va aller tout de suite dans une première ville de France, et il s'agit de Nice, Carole Taville.
On va écouter Romain Giraud, qui fait partie de la liste de Monsieur Estrosi, en fait.
Ouais.
Exactement,
vainqueur
Christian
hier.
Estrosi, qui est vainqueur hier. Alors Romain, es-tu en ligne avec nous ?
Oui, bonsoir.
Super, alors je
bonsoir,
rappelle que
Romain.
Tu es étudiant
bonsoir.
À la fac de droit, et tu es responsable des jeunes populaires à Nice, mais donc tu étais sur la liste de Christian Estrosi. Romain, la nuit a-t-elle été courte ?
Tout à fait, elle a été très courte la nuit.
Comment s'est passé ces
dernières
heures ? On a eu
une belle victoire hier. Hier soir, on a eu vraiment une belle victoire avec plus de 42%. C'est vrai qu'on avait à Nice un contexte qui est un peu particulier en France, puisqu'on avait deux candidats, dont le maire sortant de droite. Voilà, Jacques Perrat qui a subi vraiment une grosse défaite. Donc ça, c'est un gros point de satisfaction, parce que nous, c'est vrai qu'en étant colissier, mais je parle aussi en tant qu'étudiant, en tant qu'élu étudiant, c'est vrai que nous, on avait marre de cette politique à Nice, d'une personne qui ne comprenait pas. Donc c'est vrai que là, c'est comme l'a annoncé Christian Estrosi hier soir, c'est Nice est rentré dans le changement, et c'est là-dessus où nous, on a vraiment passé une courte nuit là-dessus. Quoi.
Mais déboulonner un Jacques Perrat qui est quand même bien ancré à Nice, ce n'était pas gagné. Alors qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence ?
Ben écoutez, moi je pense que Christian Estrosi avait vraiment un projet. Et puis surtout qu'il a rassemblé. C'est vrai que Jacques Perrat avait son électorat. Il avait rassemblé certains de ses proches. Mais c'est vrai que nous, la force qu'avait la liste Nice Ensemble de Christian Estrosi, c'était vraiment une liste de rassemblement. On avait des personnes de tout milieu, de tout bord, de toute origine. On avait des étudiants, on était 5 étudiants, notamment avec Marine Bonnier aussi. On avait vraiment pas mal de monde autour de nous. Et c'est vrai que là-dessus, c'est ce qui a fait notre force. Moi, je pense que c'est vraiment la liste de rassemblement qui a rassemblé l'ensemble des Niçois et non pas une partie des Niçois.
Et finalement, le fait que Christian Estrosi ait été ministre, est-ce que vous pensez que ça vous a avantagé ou handicapé pendant cette campagne ? Parce que finalement, aujourd'hui, il a dit qu'il allait démissionner de son ministère.
Bien sûr, mais je pense que c'est vraiment une volonté de se consacrer entièrement à Nice. Je pense qu'on est maire de Nice à plein temps, que c'est lui qui l'a déclaré le premier. Il avait dit juste avant le premier tour qu'il serait un maire à plein temps s'il était élu. Et je pense que c'est peut-être la raison qu'il a emporté, de se dire que Nice, le défi que s'est lancé Christian Estrosi, c'est de rétablir Nice, de relancer Nice. Nice qui est quand même la 5e ville de France. On a vraiment un gros déficit. On a acquis pendant ces 10 dernières années un déficit considérable. Sous l'ère Perrat, on a vraiment, Nice n'a jamais été aussi bas sous l'ère Perrat. Et c'est vrai que Christian Estrosi a vraiment cette ambition de relancer Nice, de redonner à Nice ses lettres de noblesse. Donc c'est vrai que démissionner du gouvernement pour se consacrer à plein temps à la mairie de Nice, je pense que c'était tout à son honneur.
Vous, justement, qu'est-ce que vous allez faire maintenant à Nice, vous personnellement ? Comment vous allez continuer votre engagement ?
J'étais un petit peu loin sur la liste. Moi, je vais continuer à militer au sein
vous
des jeunes.
Vous n'êtes pas élu,
les
alors
jeunes, les jeunes n'étaient pas tout prêts, en fait.
Non, moi, je suis pas élu, mais bon, je vais siéger, comme l'a dit Christian Estrosi, au Conseil économique et social de la ville de Nice, donc qui va mettre en place très prochainement. Et puis, je vais continuer au sein des jeunes de l'UMP, des jeunes populaires, à militer, à être aux côtés de Christian Estrosi.
On rappelle, ça fait 5 ans que vous militez à l'UMP.
Voilà, c'est ça.
Au début, vous étiez aux côtés de Renaud Muselier.
Voilà, au tout début, c'est ça que j'étais aux côtés de Renaud Muselier tout début. En fait, j'ai commencé à l'âge de 15 ans à être au Conseil régional des jeunes. Donc,
Ah oui, donc motivé, très jeune.
Donc,
ouais.
Voilà, donc à 15 ans, puis après, bah, j'étais au Corridor du Muselier. Après,
comment à 15 ans on se lance dans la politique?
Vous savez, c'est...
C'était quoi l'idée?
C'est une passion, c'est une envie. Enfin, je veux dire, ça s'explique pas, parce que moi, j'ai même pas de parents qui sont militants, j'ai pas de parents qui font de politique, j'ai pas dans mon entourage, j'ai personne qui fait de la politique. C'est vraiment bah, une envie de bouger, une envie de faire du changement, envie de d'être acteur et non pas d'être passif. Alors, c'est que on est toujours acteur, on a voté, on est en citoyen, mais c'est vraiment aller plus loin.
C'est peut-être le goût vraiment... du pouvoir aussi.
Bah, à 15 ans, à 15 ans, c'est très précoce.
C'est auprès des filles, peut-être aussi.
Auprès des filles.
De Denis Fabre, en particulier, parce que Denis Fabre était sur cette liste. C'est un élément clé pour votre victoire.
Denis Fabre, bien sûr, elle a contribué. Je ne sais pas si c'est un élément clé. En tout cas, c'est vrai qu'elle a vraiment donné de sa personne et elle s'est vraiment impliquée dans cette campagne. Et c'est vrai que bah, là-dessus. Oui, elle a été un des éléments importants de notre victoire, mais je pense que chacun, à titre personnel, que ce soit les colistiers, mais aussi que ce soit chaque niçois, a contribué à la victoire de Christian Estrosi.
D'accord. Ben, on vous remercie beaucoup, Romain.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt et bon courage pour la suite.
Au revoir.
On va bientôt se rendre dans d'autres villes, à Strasbourg et à Rennes, mais avant cela, on va faire un petit tour sur la toile avec Bérangère.
Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon.
Chères auditrices, chers auditeurs, chers internautes, dirais même, chers audinautes, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle chronique de Clic Clic Politique. Alors après ce deuxième tour des municipales, un bilan s'impose. Comment les politiques ont investi Internet, Second Life, Facebook, Twitter, les vidéos virales? Qu'est-ce qui a vraiment marché? Le e-militantisme existe-t-il? Alors commençons par Second Life qui avait créé un véritable buzz à sa sortie il y a 5 ans et qui semble désormais délaissé par les politiques. Écoutez plutôt, mis à part le Modem qui a organisé un débat en 3D sur le thème « Bilan pour le Modem des élections municipales et discussion autour des alliances pour le second tour » et un débat PS sur le thème « Comment impliquer les citoyens dans la vie de leur ville » qui a réuni quelques 25 cybernautes dans la salle de réunion virtuelle, autant dire pas grand-chose. Même l'UMP, qui avait fait beaucoup parler de son île pendant les présidentielles, je ne sais pas si vous souvenez de l'île UMP dirigée par Loïc Lemaire, même l'UMP n'a pas souhaité réinvestir cet espace communautaire, préférant se concentrer sur UMPnet, sorte de Facebook de l'UMP. Facebook, qui lui non plus n'a pas brillé par la cohérence de ses groupes politiques inscrits. Quelques chiffres tout d'abord sur ce véritable phénomène. Selon les statistiques de ce site Facebook, c'est plus de 68 millions de membres à travers le monde et plus d'un million de membres en France. On pourrait donc penser que les groupes politiques aient investi massivement ce réseau social puisque Facebook semble particulièrement indiqué pour la coordination d'actions militantes en ligne et le recrutement militant. Eh bien, les chiffres sont là. Ou pas là d'ailleurs, les différents groupes UMP, alors nous avons UMP Fédération Numérique, Union pour un Mouvement Populaire, UMP en Force, ont réuni quelques 3819 amis. Et le Parti Socialiste, quant à lui, avec Parti Socialiste Français, MJS de Paris, comptabilise 2385 sympathisants. Et si on y ajoute la star comme de Facebook, qui est Bertrand Delanoë, on arrive à 3409 amis.
Ouais, donc c'est très dispersé.
C'est plus que moi,
quoi.
En tout cas.
C'est plus que dispersé. Et pour les petits partis, on pourrait penser que les petits partis prennent d'assaut Facebook. Et ben non, le Modem, lui, a deux groupes majoritaires qui sont le Modem avec 822 membres, le Mouvement démocrate avec 667 membres, les Verts.
Il y a un groupe Modem et un groupe Mouvement démocrate.
Voilà, donc on voit que c'est complètement éparpillé. Les Verts ont 399 membres, le Front National. Deux malheureux membres et on ne trouve pas de groupe LCR sur Facebook.
Deux membres pour le Front National.
Il y a deux membres dont...
En même temps, ils ont fait 2% au municipal.
Il y a peut-être eu un lien. Ouais. Donc, quel que soit le parti, la tendance est un peu à l'éparpillement, mais on imagine que les groupes inactifs devraient progressivement disparaître au profit des plus importants et des plus structurés. Concernant Twitter et son système de microblogging, qui, comme nous l'avons vu il y a 2 semaines, nous permet d'être au courant des gazouillis de chers politiques, là encore, la technologie semble effrayer les bureaux de campagne, puisque seul Bertrand Delanoë a mis à jour son compte Twitter et a tenu au courant ses électeurs du calendrier des municipales. Bon, alors comme nous le voyons là avec tous ces chiffres, les nouvelles technologies ne sont pas forcément aussi vite appréhendées dans les campagnes électorales qu'on pourrait le penser. Ce qui a cependant cartonné, ça reste la valeur sûre, la vidéo virale. avec, alors vidéo virale, hein, c'est une bourde, une gaffe, un format court de 2 à 6 minutes, et toute la toile s'empare du buzz. Dans le top 3 de ces vidéos qui n'ont pas forcément aidé les candidats, nous avons la vidéo dans laquelle Jean-Marie Cavada assiste sans broncher, d'autres diront assoupi, au propos de l'auteur d'un livre sur Bertrand Delanoë qui dénonce les subventions municipales à des associations juives afin de s'attirer le vote juif. Nous avons ensuite...
Oula, oui,
vous vous souvenez de cette vidéo qui a
le livre de Bertrand le Magnifique, je crois, enfin.
Ouais, de Stéphane Askovitch.
Il est vite.
David Martineau. David Martineau, quant à lui, est filmé en train de dire « Notre travail, c'est de convaincre les vieux ». On peut dire que ça l'a pas énormément aidé non plus en sa campagne municipale. Et la grande gagnante de la vidéo virale de cette campagne municipale, oui, avec une vidéo vue 107 721 fois, pour être précise, sur Dailymotion, c'est Françoise de Panafieux en train de traiter son adversaire politique, Bertrand Delanoë, de...
Tocard.
Voilà.
Alors il y en a une qui a fait encore plus de buzz quand même, c'est la fameuse au salon de l'agriculture.
Ouais. Mais je ne l'ai pas compté celle-là, mais qui est les
scores. Vous Thierry Vedel, c'est quelque chose, le net, vous dites que finalement ça prendra toute son importance qu'à partir des élections de 2012 et vous estimez qu'aujourd'hui on n'en est pas encore à l'apogée. Et pourtant des vidéos comme celle de Nicolas Sarkozy, on l'a vu, maintenant on en est peut-être à 5 millions de vidéos vues. Ça a quand même marqué cette campagne, ça a été un élément important, non ?
Alors, peut-être pas cette campagne, parce que ça, c'est, je crois, une première leçon qu'on peut tirer des municipales, c'est que l'Internet, c'est plus un instrument ou un outil de débat pour des élections nationales. Dès que le débat est fragmenté en une multitude de débats, ça marche beaucoup moins. On a besoin de dialoguer à l'échelle du pays, mais ça marche beaucoup moins pour des élections locales. Donc, c'est sûr qu'il faut encore du temps pour que toutes les potentialités de l'Internet se développent en politique. Moi, je rappelle qu'il n'y a encore que la moitié des électeurs qui utilisent régulièrement l'Internet. Alors, ça croît chaque année et presque chaque mois, mais c'est qu'une moitié. Et puis, la dernière chose qu'on peut dire sur ce sujet, je crois, c'est qu'avec l'élection présidentielle, et ça continue aujourd'hui, je crois que les internautes ont fait une grande découverte. Ils ont redécouvert la télé. Voilà, puisque ceux qui marchent en effet le mieux parmi toutes les applications, c'est pas forcément les sites des partis politiques, c'est pas forcément les blogs, c'est pas forcément les forums de discussion, ça attire à peu près 15 à 20% des électeurs. Ce qui marche de plus en plus, ce sont les vidéos en ligne. Mais là,
on voit bien cet exemple que c'est effectivement Dailymotion qui fédère les foules parce que c'est facile, c'est
tout à fait.
C'est visuel. Mais
pour vous, c'est de la télé, ça.
C'est la télé à la demande. Ouais. C'est la télé à la demande, découpée en petits morceaux. Mais c'est pas, on n'invente pas véritablement un langage nouveau. C'est pas des formes d'interaction nouvelles. Et finalement, ça nous rappelle que l'image animée, c'est le langage politique principal de la vie politique.
Mais comment expliquez-vous, par exemple, que quand on regarde Facebook, il n'y a pas de groupe officiel. On a l'impression que les groupes politiques ont un peu peur de ces nouvelles technologies, n'osent pas trop s'affirmer, et donc laissent faire aux militants, se débrouillent un peu comme ils peuvent, et sur Internet.
Mais je crois, pour partie, ce sont les élections municipales. On aurait été, Facebook aurait été présent lors de l'élection présidentielle. Je crois que ça aurait beaucoup mieux marché autour des comités de soutien. Donc il y a d'une part l'effet municipal. Puis maintenant, on est extrêmement prudent avec les nouvelles applications d'Internet parce qu'on sent bien que ça, c'est peut-être appelé à durer quoi ? Un an ou deux ans, Facebook, ça va être remplacé par un nouveau truc. Second Life, c'est presque mort-né, quoi. Ça a duré à peine un an.
MySpace également.
Il va y avoir des effets de mode, quoi, tout ça.
Peut-être pas des effets de mode, mais il y a une telle évolution technologique. Alors, les gens sont sans arrêt en train d'essayer de trouver la dernière. Et du coup, on n'arrive pas à créer de masse critique. Et sur Facebook, moi, ça me frappe assez, ça.
Alors, miracle de la technologie, on va continuer notre tour de France en nous rendant maintenant à Rennes avec, en ligne, Jérôme Normandière, 30 ans, numéro 9, je crois, de la liste UMP, c'est ça ?
La liste menée par Karim Boudjema.
Voilà, bonsoir Jérôme.
Connaît, toutes les composantes de la majorité présidentielle, dont l'UMP.
Voilà, parce que alors vous, il faut quand même le préciser, vous êtes au départ un élément du MoDem, qui vient du MoDem.
Absolument, encore plus loin
de l'UDF.
Et puis j'ai accompagné tous les combats de l'UDF et toutes les mutations de l'UDF jusqu'au MoDem et jusqu'à ces dernières semaines.
Alors
Oui,
juste pour résumer un petit peu ce qui s'est passé à Rennes pour les auditeurs, il y a eu une triangulaire, quelque chose de finalement assez rare en France, il n'y en a pas eu tant que ça, avec donc le socialiste Daniel Delaveau, PS, qui est arrivé en tête avec 62% des suffrages. Donc, ce qui fait qu'il a fait encore mieux qu'Edmond Hervé, le célèbre maire de Rennes. Et puis, la liste que vous souteniez de l'UMP Karim Boudjema a fait 26% et le MoDem...
27, pardon.
Et le MoDem, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est important, le MoDem Caroline Olivereau qui a fait 12% seulement. Voilà. Est-ce que c'est, je suppose, une petite déception pour vous?
Oui, une grosse déception. Faut pas se cacher derrière ce petit doigt. Une déception, pour autant pas une amertume, parce que moi, à titre personnel, j'ai fait la campagne que je voulais faire, la campagne que j'aurais pas pu faire au MoDem, quand je vois la tonalité des argumentations qui ont été employées par la liste Caroline Olivereau et ses colistiers. Donc je suis, j'ai encore un bon soldat, j'ai la satisfaction au moins du devoir accompli et d'avoir fait tout ce qu'il était possible de faire à notre mesure pour aboutir à un score qui est décevant, effectivement. Ouais. Pour autant, je tempère cette déception en constatant que Daniel Delavo fait 62%, Sylviane Royal faisait 63 ou 62 à présidentielle, et que si on additionne les voix de Karim Boudjema et de Caroline Olivereau, on arrive au score d'alternance aux socialistes tel qu'il avait été constitué à la présidentielle dernière.
Si vous additionnez ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'alliance finalement avec le MoDem, et pourquoi vous n'avez pas rallié le MoDem, vous, directement, alors que vous êtes électeur du MoDem?
Oui. Pourquoi il n'y a pas eu d'alliance? Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, puisque moi, c'est ce que j'ai plaidé. On a fait une consultation interne à travers un certain nombre de motions, et celle que j'avais constituée et proposée au suffrage des militants, on n'a obtenu que 10%, parce que je n'ai pas...
Au sein du MoDem.
Sur le sein du MoDem, à l'automne dernier, parce que je pense que les militants sont pas du tout, ils sont sur une ligne existentielle, quoi. Quand c'est vrai, un militant, moi, avec, j'ai proposé cette motion-là parce que j'ai 5 ou 6 ans de militantisme derrière moi, et ce qui me donne un petit peu de recul, je pense, par rapport aux perspectives qui nous étaient possibles d'atteindre. Et j'ai déposé cette motion en disant qu'on aurait le plus grand mal à dépasser les 10% au premier tour. Caroline Olivereau les a dépassés à 149 voix près. Parce que, moi, je partais du principe que l'alternance, des forces qui veulent se poser en alternance, en alternative au PS, devaient conjuguer leurs forces plutôt que de passer leur temps à s'annuler. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre de la campagne du premier tour.
Caroline
Olivereau était sur un autre logiciel,
oui,
qui voulait exister, dont Acte.
Et vous venez donc de l'UDF, comme vous le précisiez. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la stratégie de François Bayrou? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a un peu dilapidé cet héritage de l'UDF?
Complètement. Moi, je vois à Rennes, le MoDem était assis sur un tas d'or, puisque Bayrou a fait 24 à la présidentielle, Caroline Olivereau fait 10. Et pour moi, la stratégie du MoDem, aujourd'hui, on est dans une impasse stratégique majeure, quoi. C'est une stratégie d'élection présidentielle, puisque la contestation de la dédollarisation ne peut aller à son terme qu'à travers la mère de toutes les élections, qui est l'élection présidentielle. Mais dans l'intervalle, on est condamné à une posture d'existence. On voit bien qu'on n'est pas en mesure de proposer une alternance, de contester sérieusement la bipolarisation dans le cadre des élections intermédiaires.
Alors, une posture qui va être d'autant plus difficile que François Bayrou a été battu à Pau. Un mot donc sur cette défaite et sur le fait qu'il continue sa carrière politique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis très partagé, parce que je ne vais pas brûler ce que j'ai adoré et adorer ce que j'ai brûlé comme ça du jour au lendemain. En toute objectivité, j'ai trouvé étrange son appel à l'électorat UMP tel qu'il l'a fait à la fin de la semaine dernière.
Oui, il a dit qu'il fallait voter contre les socialo-communistes.
Absolument.
Et là,
comme je trouve étrange son analyse aujourd'hui.
De manipulation.
Il y a un peu de mauvaise foi où il dit que...
Il y a eu des manœuvres.
Il condamne la présence de M. Urieta au second tour, mais pourtant, c'est ce qu'a fait le MoDem en se maintenant dans toutes les triangulaires où il était présent. Donc, faut être cohérent, dirais-je. Et effectivement, c'est un exemple de l'impasse dans laquelle, à mon sens, le MoDem est en train de s'enfermer.
Mais alors, du coup, vous, qu'est-ce que vous allez faire personnellement? Est-ce que vous comptez changer de parti? Est-ce que, par exemple, vous allez aller au Nouveau Centre ou pourquoi pas à l'UMP?
Alors, jamais Nouveau Centre, parce que je pense qu'il est, pour moi, il est condamné d'emblée par le péché congénital de sa constitution et de sa formation, c'est-à-dire 25 parlementaires qui, du jour au lendemain, ont quitté Bayrou, et ça, je trouve que c'est pas bien. Voilà, c'est pas très éthique. Jamais au Nouveau Centre, et l'UMP, je ne m'y retrouve pas. Donc, pour le moment, je suis
en déshérence.
Là, Éventuellement, je sais que Pierre Magnery a écrit un article dans Le Monde où il constatait que l'identité centriste avait beaucoup de mal à apparaître au sein de l'UMP. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on constate en Bretagne depuis la création de l'UMP en 2002. Eh bien, l'UMP aligne les échecs aux élections. Pourquoi ? Parce que l'électorat centriste s'est détourné de l'UMP. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire.
Il reste le Parti radical, peut-être, de Jean-Luc Borloo, peut-être.
Pourquoi pas, mais le Parti radical...
Je sais pas, j'essaie de trouver une solution pour vous, Jérôme.
C'est gentil, je vous remercie. Ou la gauche moderne de Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel est venu soutenir Karim Boudjema dans le cadre de l'élection municipale, là. Et vraiment, bon, j'étais très sensible au parcours et à l'intelligence du bonhomme, quoi. Mais pour autant... gauche moderne pour moi ou gauche radicale pour moi, ça ne saurait être qu'une antichambre et pas une fin de parcours. Et voilà, le centrisme, c'est vraiment un ensemble de références et de valeurs et de voilà auxquelles et de racines. Voilà. Donc je ne les retrouve pas ni à gauche moderne ni au parti radical.
Juste pour revenir à Monsieur Boudjema, votre tête de liste, c'est un chirurgien novice en politique, et puis aussi issu, comme on dit, des minorités visibles. Est-ce que on l'a envoyé là-bas parce qu'on savait que c'était cuit d'avance à Rennes? Honnêtement.
Non, honnêtement, non. On l'a envoyé là-bas parce qu'on s'est dit que. Il avait un profil intéressant. Le chef de l'opposition s'appelait donc qui avait été candidat à l'élection présidente s'appelait Loïc Lebrun, qui s'est présenté à différentes élections depuis lors et qui n'a pas forcément démontré sa capacité à convaincre et à rassembler suffisamment largement pour ouvrir la perspective de remporter la ville de Rennes. Donc quelque part sur le papier, le casting, on va dire, ou le profil de Karim Boudjema était vraiment très intéressant parce que c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de modéré, c'est quelqu'un qui triche pas, c'est quelqu'un qui a démontré vraiment une façon très élégante de faire de la politique, c'est-à-dire il a mené une campagne sans attaque personnelle, vraiment très élégante et qui correspond bien à mon sens à ce qu'attendent l'électorat breton en général et Rennais en particulier. Ils n'aiment pas les polémiques, ils n'aiment pas les battleurs.
Et apparemment, ils n'attendaient pas encore ça cette fois-ci, mais peut-être la prochaine fois, alors.
Vous avez raison qu'ils n'attendaient pas ça cette fois-ci, parce qu'il y avait la statue du commandeur, Edmond Hervé, qui a un petit peu hanté la campagne. Et Daniel Delaveau, qui succède aujourd'hui à Edmond Hervé, s'est prévalu, réclamé de l'héritage. Et 87, il y a des sondages qui disent que 87% des Rennais sont satisfaits des mandats d'Edmond Hervé. Donc c'était très difficile de paquer de billes en tête un héritage. On n'aurait pas été cru et on n'aurait pas été crédible. Par ailleurs, il y a eu le facteur national. C'est vrai qu'à Rennes, il suffit de dire UMP, Sarkozy, et de l'agiter comme un épouvantail pour rendre tout.
Donc c'était un vote national pour vous. On en revient.
on va devoir vous quitter, malheureusement, Jérôme. Mais c'était très intéressant de discuter avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis bonne chance pour la suite de votre carrière. Parce que je rappelle que malgré votre verve, vous n'avez que 30 ans. Hein, donc tout l'avenir devant vous. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Et puis on va faire maintenant une petite pause en rentrant, en dégotant de notre jukebox politique une chanson. Qui ressemble bien aujourd'hui, changer la vie du PS. Fêtons le PS aujourd'hui en ce jour de gloire.
Les voix des femmes, les voix des hommes ont dû se taire pour trop longtemps. Ne croyons plus au lendemain qui chante, changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente, changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, dessiner nous-mêmes, guider nos vies de chair de l'argent, écrire notre histoire à la première personne, être enfin des hommes et non des instruments. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Au nom de leur puissance, notre sueur, nos larmes, notre sang. Les travailleurs travaillent pour la France, pas au profit de quelques possédants. Pour partager les fruits de l'abondance, changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer nos vies de chair de l'argent, faire du bonheur notre monnaie courante, maîtriser la science et dominer le temps. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Nos villes qui ne sont plus que des ghettos géants, où le printemps n'a plus le droit d'asile, où meurent les vieux, les arbres, les enfants. C'est dans nos propres lieux qu'on nous exile. Changeons la vie ici et maintenant.
Changeons la vie ici et maintenant.
Oui, une chanson qui fait très post-Vatican de jeunesse catholique de gauche.
C'est ça.
Ça rappelle ma catéchèse.
C'est tout à fait ça. On va terminer ce petit tour de France en allant maintenant à Strasbourg pour rencontrer une jeune PS, Pauline Viesse, une très très jeune PS puisqu'elle a seulement 18 ans, Bérangère.
Effectivement. Alors Pauline, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends.
Bonsoir Pauline, vous allez bien ?
Oui, ça va très bien, merci.
Alors, comment vous avez fêté la victoire de Roland Ries à Strasbourg ?
Voilà, parce qu'il faut juste dire que le PS a remporté hier avec 58% des voix l'élection à Strasbourg face à la maire sortante Fabienne Keller.
Voilà. Comment nous avons fêté la victoire ? On s'est retrouvés dans une espèce de bar-boîte qu'on avait loué pour l'occasion déjà la semaine dernière. On a attendu les résultats à partir de 19h, donc avec France 3 sur écran géant. Et puis voilà, bah, au fur et à mesure que les résultats tombaient, les gens se faisaient de plus en plus nombreux, les Strasbourgeois venaient nous soutenir et c'est devenu, il faisait une chaleur à crever, il y avait un monde fou, c'était impossible de rentrer, il y avait même du tri à l'entrée. Et puis ça s'est fêté jusque tard dans la nuit, puisque certains candidats, comme les candidats en cantonal, arrivaient plus tard puisqu'ils attendaient dans leur QG les résultats définitifs, puis nous ont rejoints par la suite.
On rejoint les municipaux à la fête, c'est ça ?
Voilà,
dans la barre-boîte.
Comment vous expliquez cette victoire d'un maire, Roland Ries, là maintenant désormais maire, qui était un ancien intérimaire en fait, puisqu'il avait occupé un peu le siège pendant quelques temps lorsque Catherine Trottmann n'était plus là.
Alors, la victoire s'explique par un mandat de 7 ans qui a été assez catastrophique au niveau du bilan pour les Strasbourgeois.
Alors pourtant, il paraît que dans tous les sondages, les Strasbourgeois étaient très satisfaits du bilan de Fabienne Keller.
Oui, voilà. Mais bizarrement, ils étaient très satisfaits, c'était 73% il me semble, ils étaient très satisfaits du bilan, mais pour les sondages de vote, ils annonçaient qu'ils voteraient Roland Ries très très largement. Donc c'est ce qui a d'ailleurs provoqué l'incompréhension de la maire sortante et son équipe. Mais disons que...
Et de vous-même, alors, je suppose, non ? C'était surprenant, même pour vous, ça devait être surprenant, non ?
Non, pas tant que ça, parce qu'en fait, ça s'explique assez facilement, puisque leur mandat s'est fait sur un petit peu une politique de l'illusion.
Quand vous dites on parle bien donc de Fabienne Keller et du fameux tandem avec M. Grossmann.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, il y a eu énormément de projets qui ont été faits pendant ce mandat, mais qui étaient en fait déjà commencés, en tout cas... dans les papiers, etc., par la mairie d'avant, donc qui était Catherine Trottmann, puis Roland Ries, effectivement, pendant un petit moment, tant que Catherine Trottmann était au ministère. Donc tous ces projets, en fait, avaient été introduits, et Keller et Grossmann, donc, les ont poursuivis.
Ah, le grand
projet dont on avait besoin. Le problème, c'est qu'ils ont été souvent assez mal filmés,
ça, parce qu'effectivement, on dit que Fabienne Keller a souffert d'un problème de communication vis-à-vis de ses concitoyens, des Strasbourgeois, et que ça a pris une ampleur assez
autoritaire.
Voilà, assez incroyable.
C'est comme ça qu'elle explique.
Avec un pamphlet qui est paru en décembre, enfin.
Voilà, ouais. Elle explique beaucoup sa défaite par justement une incompréhension entre les Strasbourgeois et son équipe. Nous, on est plutôt d'avis que c'est à nous de comprendre les Strasbourgeois plutôt qu'aux Strasbourgeois de nous comprendre nous à l'exécutif, puisque si on veut diriger une ville, on a vocation à représenter l'ensemble de ses habitants. Donc ça a été un véritable problème. Il y a eu une grosse faute de communication, donc notamment au niveau des conseils de quartier, des différents conseils consultatifs qui sont mis en place en général par les mairies. J'en veux pour preuve, par exemple, le conseil consultatif des étrangers, puisqu'ils n'ont pas le droit de vote, qui a été mis en place à l'époque de Trautmann et qui a été supprimé dès leur arrivée en fonction, donc en 2001. Donc rien que ça, ça a été très très mal vécu de la part des Strasbourgeois, et ça s'est enchaîné comme ça pendant 7 ans, une faute de communication qui allait de plus en plus et qui leur a été très largement reprochée d'ailleurs, et ça s'est vu au final dans les urnes, quoi. Okay. Donc c'est vrai que ça a été leur gros problème.
Pauline, une dernière petite question là. Vous êtes engagée il y a 3 ans, donc à 15 ans, c'est ça, parce que vous avez 18 ans maintenant, vous êtes la plus jeune sur la liste de Roland Riss. Pourquoi vous êtes-vous engagé en un mot? Quelle est la valeur qui vous a fait vous engager au Parti Socialiste?
Alors, je me suis d'abord engagée au mouvement des
jeunes. En un mot, hein.
Le Parti Socialiste est venu après. Alors, en un mot, c'est difficile. C'est simplement que j'avais une soif de résistance à ce que je voyais au quotidien.
J'avais soif, je suis rentré.
Non, c'est simplement que je voulais pas me servir à rien. Je voulais être utile.
Bon, okay. Très bien. Bah, en tout cas, bravo pour cet engagement, parce que vous avez que 18 ans, on le rappelle. Et bon courage vraiment pour la suite. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Au revoir, Pauline.
C'était avec plaisir. Au revoir.
On est très en retard. Alors tout de suite, on va passer au quiz de l'actu politique avec Carole.
Une somme totale de 118 000 francs, 1 million.
Thierry, je compte sur vous, vous participez. Vous allez être tout seul face
si
à ces trois
lions. Hein.
Alors, première question. Combien de ministres et de secrétaires d'État n'ont pas su s'imposer au second tour en tant que chef de liste ou de colistier?
Mais
et
Roger,
je crois
4.
Avoir trouvé 3. Comment remettre le jingle.
4.
3.
Ah là 4. 4. Et c'est 4. Bien joué, Bérangère.
On rappelle qui alors?
Alors, Albaniel, Lagarde, Darcos.
Et Ramayade, vous l'avez dit, effectivement. Ensuite, question numéro 2. Quel est l'arrondissement de Paris qui a réussi à garder les verts? Que les verts ont réussi
Montreuil.
À garder.
Non. C'est bien, c'est ça. 21e arrondissement.
Non.
Ah, c'est vrai?
Non, c'est le second. C'est bientôt. Je crois que c'est Pierre Cardin qui a dit que ça va être le 21e. Hein. Vous avez des références. C'est le second arrondissement, en fait. C'est Jacques Bouteau qui l'a remporté face à Christophe Lekief. Ah là là, vous avez appris quelque chose. Dans la famille Chekeldi Renon, qui du père ou de la fille a raflé la mairie Pitot? Bien joué, la fille.
Ah oui, ça c'était terrible, c'était parce qu'on est à Pitot, hein, pour tout vous dire, et la fille était opposée au père.
Entretuée. Alors les scores, la fille 52%, le père 7%.
Oula, oui, puis en plus.
Thomas,
là,
tu comptes les points,
j'espère. Ouais, c'est bon, c'est tout pour moi.
Combien de villes de plus de 30 000 habitants détiennent désormais la gauche?
Oh, attends, je le laisse sur un papier.
34.
Non,
enfin.
Et
21, ou je ne sais plus.
Non, moi aussi, plus de 30 000 habitants. De plus de 30 000.
Ça doit être beaucoup, 150.
Il y en a 124 pour la droite.
124 pour la droite, ça c'est vrai.
155?
Non.
160.
Plus encore.
175.
183 villes.
Bon, c'était moi le plus proche.
Ouais, c'était ça le plus
proche. Ok, allez, pour finir.
Dernière question.
Dernière, vas-y.
Combien gagne un maire de moins de 500 habitants par mois?
650.
633
euros
brut. À la différence, pas mal, Béran. À la différence de Marseille, Lyon ou Paris, donc des grosses villes, c'est 5398 euros. Je précise que c'est brut,
pas le SMIC, hein, c'est beaucoup.
Tout de même. Voilà.
D'accord,
bon, alors, un écoute, point sur les scores.
Bah écoute, ça fait un partout pour tout le monde, sauf pour Thierry Védel qui a donc perdu.
Comme il se doit pour un spécialiste de l'analyse politique.
Je crois que c'était normal. Ouais. Bon, on va reparler un petit peu de cette campagne simplement pour dresser quelques petites perspectives, notamment à gauche, parce que là maintenant, au lendemain de ces municipales, la bataille elle semble bien lancée. Là, il y a Ségolène Royal qui est lancée depuis longtemps, Julien Drey, Pierre Moscovici se
Martine
sont déclarés disponibles. Voilà, Martine Aubry, Jean-Christophe Cambadélis. Enfin bref, il y a beaucoup de monde. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que quelqu'un peut arrêter Royal, qui reste vraiment la plus populaire dans son parti aujourd'hui?
Oui, avant de vous répondre, est-ce que je peux ajouter une question au quiz?
Oui.
Alors, voilà, ah, c'était il essaie de nous piéger.
non, pas du tout. C'est une question en relation avec ce que je sens sous votre question, c'est-à-dire aussi, est-ce que le fait d'être élu maire d'une grande ville aide à conquérir un parti politique, à devenir le leader d'un grand parti politique, petit peu le modèle Chirac. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnalités qui ont exercé des responsabilités gouvernementales de premier plan, qui ont été maires de grandes villes?
Il y a eu Alain Juppé. De grandes villes, pas
ouais,
tant que ça.
De très grandes villes.
Alain Juppé, à part ça, Balladur, il était maire du 15e.
Ouais.
Monroy, à Lille, non.
Mitterrand, il est Mitterrand,
dans le passé,
il était maire de
Delmas. Édouard Herriot, si on remonte très très loin dans le passé.
On n'était pas né
Pierre Monroy. Voilà. Et Jacques Chirac.
Jacques Chirac.
Est-ce qu'on met Sarkozy, Neuilly dedans?
Oui, des grandes villes.
Et qu'est-ce que vous voulez nous dire par là?
Non, je sais. Non, ce que je veux dire très sérieusement aussi, c'est que bon, tout le monde a ça en tête. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'on voit se profiler au Parti socialiste. En tout cas, c'est présenté comme tel, une espèce d'affrontement entre Ségolène Royal et Bertrand Delanoë, les deux seuls qui finalement auraient pour la dynamique électorale une certaine légitimité, parce que les autres, bon, c'est plus difficile. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On applique le modèle Chirac, hein, parce que Chirac, dans le passé, il est parti de la base de Paris pour conquérir ensuite la présidence de la République. C'est ça qui est toujours mystérieux en politique. On raisonne sur de tellement petits nombres, on a tendance à faire de généralités avec des cas qui sont parfois isolés que, bon, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Pas du tout. Et puis, rappelez-vous, on est quand même... parce qu'on est déjà entré à la fois en campagne électorale pour 2012.
Et
en même, voilà, c'est ça qui est fou. Mais en même temps, rappelez-vous, en 2003 ou 2004, qui pensait qu'on aurait Ségolène Royal candidate?
C'est vrai que ça met en perspective.
Sarkozy, en revanche, on pouvait peut-être le deviner. Mais Ségolène Royal, personne ne le savait.
Vous pensez qu'aujourd'hui, une nouvelle personnalité peut très bien sortir à gauche dans les
ou réémerger des États-Unis comme Strauss-Kahn? Je pense que bon, son mandat se termine juste pile. Voilà. Et puis de toute façon, comme ils le disent très fréquemment au PS, le vrai problème, ce ne sont pas les personnes, c'est le projet, le programme. Et là, non. Sérieusement,
je pense... Est-ce que vous y croyez ça? Est-ce que vous pensez que vraiment la bonne stratégie pour le PS, c'est de commencer par s'intéresser au programme et ensuite aux personnes, comme ils ont essayé de le faire un peu à la dernière présidentielle, on ne peut pas dire que ça ait très bien fonctionné? Ou alors de trouver un leader dès maintenant?
Non, mais c'est pas le programme au sens de propositions concrètes. Je crois que c'est pas ça que les électeurs attendent. Ils attendent une grande vision, un souffle. Ouais. Et l'EPS vit quasiment depuis 30 ans ou même 40 ans, et c'est encore plus vif depuis évidemment les échecs à plusieurs présidentielles. Trois. Donc, c'est d'autant plus frappant. Il n'a pas fait sa mue idéologique. Il est toujours, le PS oscille toujours entre une espèce de marxisme recyclé qui ne veut plus dire son nom, puis une tentative d'être pragmatique.
Et qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, changer ça, justement, cette donne?
C'est
changer le fonctionnement vraiment stricto sensu du bureau du PS, des élections, des...
Oui, je sais pas, parce que bon, pendant très longtemps, ce qui a empêché le Parti socialiste d'évoluer, c'est le Parti communiste. Hein. La nécessité de l'alliance avec le Parti communiste faisait que, comme le Parti travailliste britannique ou comme le SPD allemand, à l'inverse du Parti travailliste britannique et du SPD allemand, le Parti socialiste français n'a pas réussi à réaliser sa mue. Il faudrait. Alors comment ça s'est passé ailleurs? Ça s'est passé avec des personnalités de premier rang, mais aussi un travail en profondeur de prise de contrôle de l'appareil. C'est ce qu'a fait Tony Blair en Grande-Bretagne pour remettre complètement à neuf les cadres du parti
travailliste. C'est ça que vous croyez que doit faire le PS aujourd'hui, parce que ils ont un peu ce problème d'alliance et les élections municipales vont pas beaucoup les y aider, puisque finalement l'extrême gauche a plutôt remonté avec même une poussée de Besancenot et une très bonne résistance des communistes. Et puis de l'autre côté, le MoDem n'a pas été si fort que ça.
Ouais. Mais le MoDem, je crois, était une tentative de modernisation de la vie politique qui s'appuyait pas seulement sur le concentrisme dont on a eu tout à l'heure une incarnation, qui est un jeune représentatif du courant chrétien-démocrate, je crois. Ouais. Mais il y a aussi le MoDem, il a une base qui est potentiellement qui peut représenter à peu près 20 à 25% de l'électorat, qu'on a bien vu émerger à la dernière campagne présidentielle. Et ça n'a pas souvent été dit, parce que durant cette campagne où on a fait des enquêtes, il y en a une qui a été incroyable, enfin une question qu'on a posée qui était incroyable, qui nous a montré que les gens se sont beaucoup intéressés à la campagne, et en même temps qu'ils ont trouvé la campagne peu intéressante.
Et c'est énorme. On avait 40% des lecteurs qui, en question ouverte, nous disaient que c'était pas intéressant, c'est du blabla, c'est trop de la com.
Est-ce que les gens s'y intéressent vraiment?
Mais alors, là-dedans, vous avez une partie de gens qui sont défiants à l'égard de la politique traditionnellement, qui vous disent tous pareil, tous des pourris, c'est que des promesses. Et vous avez ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et c'est sur ça, je crois, que le MoDem essaie de se construire, mais n'y arrive pas. Il y avait aussi une autre partie des électeurs qui, eux, aspirent à une, vraiment un débat politique authentique,
à
une vision politique peut-être un petit peu idéale, mais beaucoup plus coopérative, de rassemblement, où tous les gens de bonne volonté travaillent au problème de la société. Il y a cette idée-là, je crois, qui est dans le MoDem.
Ce qui explique la force du MoDem aux dernières présidentielles.
Mais est-ce que ça expliquerait aussi que François Bayrou en soit son ennemi? C'est-à-dire que vous parlez de participation, d'espèce de démocratie qui vient d'en bas. On a l'impression que François Bayrou fait un kidnap le MoDem, il en fait une force pour se présenter peut-être au présidentiel en 2012. Est-ce que vous pensez que s'il y avait une autre personne à la tête, ça serait différent?
Non, je crois qu'il a pigé, il n'est pas le seul d'ailleurs, qu'il y avait ce courant qui existait dans la société française. Il n'est pas le seul parce que Nicolas Sarkozy, avec sa politique d'ouverture, c'est exactement ça aussi qu'il essaie de capter. Et on le sent bien, il y a ça dans la société française. Alors ensuite, Bayrou, il essaie de faire vivre sa boutique, comme pas mal de politiques, et c'est d'autant plus difficile qu'il est dans un système politique et électoral qui tend au bipartisme, comme dans beaucoup d'autres pays, et qui rend l'existence du centre très difficile sur le plan électoral.
Alors il y a un autre parti, justement, c'est le Front National, je ne sais pas si c'est l'actualité.
Voilà.
Marine Le Pen a perdu hier à Hénin-Beaumont. Alors, est-ce que...
Hénin-Beaumont.
Dans la grande ville d'Hénin-Beaumont.
Voilà, elle, c'est une petite ville, elle a quand même aussi une ambition derrière. Est-ce que, selon vous, elle va pouvoir rebondir et surtout faire face à Gollnisch?
Alors oui, et puis est-ce que, plus largement, ça annonce un peu la fin du FN, ça?
Ah. Oh, tu vas loin.
Parce qu'ils ont fait, non, mais ils ont fait des scores, ils ont fait très, des scores très, très, très bas.
Ouais. Alors, dans le centre de recherche où je travaille, on a toujours pris très au sérieux le Front National. Parce que le Front National, c'est pas juste des fachos ou des nostalgiques de la Seconde Guerre mondiale ou du nazisme. Il y en a. Mais ce qui a fait le succès électoral du Front National, c'est avant tout ce qu'on peut appeler les déclassés, les petits blancs, les classes populaires touchées par la crise et qui avaient l'impression que les partis de gauche, dans lesquels normalement ils se reconnaissaient, ne les prenaient plus en charge. Et c'est le Front National qui a fait ce travail, et on les trouve dans l'est de la France, dans le nord-nord-est de la France, et dans la banlieue parisienne également, où les zones touchées par la crise économique. Alors Nicolas Sarkozy a réussi à capter une grande partie de cet électorat. C'est là la principale cause de l'affaiblissement du Front National. Et tant qu'il arrivera par sa politique, son discours aussi, qui compte beaucoup, je crois, là-dedans, tant qu'il arrivera à aller rassembler, le Front National ne peut plus
prospérer. Ce qui est surprenant, c'est que, malgré tout, là, la droite était beaucoup plus faible et on pouvait s'attendre à une certaine remontée du Front National. Ils n'en ont absolument pas profité.
Mais je crois que, les gens encore, parce qu'on va très très vite et puis on analyse un petit peu ça comme une sanction de Sarkozy, je crois que c'est pas ça. Il y a des gens qui continuent à vouloir, sans avoir voté pour la droite, pour les listes de l'UMP, qui continuent à vouloir que Nicolas Sarkozy réforme la France, change, fasse le ménage, vraiment, et qui croient à cette idée de rupture et enfin...
quant au style, peut-être.
Voilà. Et ces gens-là, ils se sont abstenus pour une grande part, puisqu'on voit très très bien, encore une fois, que l'abstention était beaucoup plus forte chez ceux qui avaient une partie de ceux qui avaient voté Nicolas Sarkozy, et aussi, vous voyez, certaines villes très populaires de l'Est ou de la banlieue parisienne, vous avez des taux d'abstention supérieurs à 50%.
Et justement, Sarkozy, il a dit qu'il allait essayer apparemment de prendre de la hauteur, changer un peu sa stratégie. Si vous étiez son conseiller politique, vous lui diriez quoi aujourd'hui?
Qu'il ait un boulot difficile. Et de toute façon, je crois que Nicolas Sarkozy n'aime pas les conseillers. Je crois qu'il vient de faire un sacré ménage dans son équipe et que, je crois qu'il écoute d'abord lui-même, et qu'il a énormément confiance en ses propres talents et capacités. Dans ce qu'essaie de faire Nicolas Sarkozy, c'est le boulot qu'essaie de faire beaucoup d'hommes politiques, qui est hyper compliqué. C'est à la fois d'être proche des gens et distant. Et en tant que président de la République, il doit être à la fois au-dessus de la mêlée et puis à la fois très proche, ressembler aux gens. Et visiblement, il a voulu être trop proche des gens et maintenant, il va essayer d'être à nouveau un petit peu comme les présidents de la République habituellement.
D'accord. Alors, pour finir cette émission, on va aussi écouter quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. Il s'agit de Philippe.
La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre.
Je vous demande de vous arrêter.
Oh mon Dieu.
Armand Ingot. La nouvelle n'est plus très fraîche, le Maccabée non plus, mais je viens seulement de m'en rendre compte. Isa, le magazine féminin, est mort. Comprenez mon désarroi. Ce magazine, c'était mes clés pour appréhender ces deux grandes inconnues sans cesse changeantes et capricieuses que sont la mode et les femmes.
Il y en a plein d'autres.
Non, c'est pas les mêmes. Je t'explique. Mensuellement, pour moi, c'était plus clair. Je comprends pas tout, hein, après Isa. Cette extase répétée pour Sarah Jessica Parker et Mary Kate Olsen reste mystérieuse. Le goût suicidaire pour une mode d'anorexie, tout ça me laisse perplexe. Mais tout de même, avec Isa, je progressais. Sans Isa, le presque beau sexe redevient ce continent incontinent et incompris pour nous les hommes. Un exemple. Hier, une amie qui doit me croire très gay me parlait de la guerre entre bottines et stiletto quand le silence irrémédiablement vide de mon ignorance s'abattit sur nos profiteroles.
D'une part, gay, toi.
Je suis en polo rose. Hein. D'une part, je m'en fichais un peu, d'autre part, je ne savais rien. Alors, je n'avais plus Isa derrière moi pour m'aider. Oui, Isa est utile, je faisais les tests et d'ailleurs, je tiens à le dire, je suis clitoridienne. Que me reste-t-il pour déchiffrer les femmes et les tendances aujourd'hui? La féminité est fantasmée d'Amazon improbable et conquérante. Lui en fait par des frustrés qui apprennent en vain comment se faire respecter par leur psy en mangeant protéiné. Non, non, les autres magazines féminins sont beaucoup plus dans le girl power, ça ne m'intéresse pas. C'est un fait, aujourd'hui je suis totalement démuni pour comprendre la tempête de mode qui nous arrive depuis quelques jours, car c'est le grand retour de la veste. La veste, oui, on l'a tous connue au moins une fois dans notre vie. Ce baiser refusé, notre orgueil fouetté, bafoué en plein visage par un cuir bien souple. Oui, c'est une veste. Ça se passe rarement bien, hein, la première veste. Et pourtant, on s'en souviendra. À cet âge tendre, une veste, ça structure autant que ça habille. Regardez Martinon. Il s'en prend une grosse et il est jeune, il est romantique, il pense qu'il est le plus malheureux du monde, qu'il ne refera plus jamais de la politique et que je partirai loin de mon malheur à New York. Et voilà, voilà, pour oublier. Mais non, non, les politiques, ils s'en prennent plein des vestes. Et il s'en prendra d'autres, Martinon. Au Modem, par exemple, eh ben, on est habillé pour l'hiver, là. On a fait les soldes dans les magasins d'usine. Tout le monde a un peu pris sa veste. Ça se porte très bien. Tantôt courte, veston, un caraco en quelque sorte pour Marielle de Sarnez. Tantôt quelque chose de plus couvrant, hein, un bon gros paletot bien lourd en travers du scrutin pour Bayrou. En tout cas, tout le monde y a été de son petit couvre-dos. Pouvait-il en être autrement? Il semble que certains portaient en effet de ces blazers indémodables qui peuvent durer encore longtemps. Les coupures tiennent bon, et ben hop, comme un bomber, on retourne la veste et on appelle ça le nouveau centre, par exemple. Eh bien non, élimé au coude, ça craque quand même un peu. Dès lors, une question me brûle, vous brûle, nous brûle. Peut-on avoir la classe en prenant une veste? Eh bien oui, si j'en juge par Madame Keller de Strasbourg, qui avait très bien endossé le fait d'être perdant. Quand certains restent dignes déculottés par la main poilue du peuple paternel, c'est-à-dire sévère mais juste, d'autres, c'est la fête des gagnants. À avoir une déléguée de 60 ans entamer un pas de jerk à Saint-Étienne en oubliant la caméra, c'est un moment rare. Bref, les élections s'achèvent, les politiques vont se rhabiller en désordre, non sans tailler quelques costards au passage, car c'est ainsi que Dieu fit l'homme et il vit que c'était bon.
Merci beaucoup Philippe.
Philippe, maintenant
bon
je tiens à te dire qu'il y a QG, un magazine masculin, qui t'aide à mieux t'habiller et
ce mois-ci,
il t'explique s'il faut mettre 2 ou 3 boutons à ta veste.
Merci.
Précieux alors, précieux à savoir. Bon, la semaine prochaine, malheureusement, vous devrez aller chercher votre dose de politique ailleurs puisqu'il n'y a pas de politique addict la semaine prochaine pour cause de Pâques, hein, tout simplement. Donc nous reviendrons dans 2 semaines pour une nouvelle piqûre. Merci beaucoup, merci Thierry Vedel d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Très intéressant. Et puis à très bientôt, j'espère.
À bientôt.
Merci.
À dans 2 semaines.